Vous écoutez RFI et c'est très bien. Il est 17h à Washington, 23h ici à Paris.
Théo Renaudon.
Au sommaire de notre tour de l'actualité internationale, il y a 24 heures tout pile, Donald Trump lançait sa guerre commerciale, droits de douane augmentés sur les produits importés aux États-Unis provenant de l'essentiel des pays du monde. Point action-réaction dans ce journal. La trêve n'est plus qu'un lointain souvenir à Gaza, 31 nouveaux morts dans un bombardement de l'armée israélienne. Israël qui poursuit ses incursions en Cisjordanie occupée. Et puis, il s'appelait Barry, Milton, John, Whelan. Ces noms d'ouragans ne seront plus jamais utilisés. Leurs dernières incarnations ont été trop meurtrières. Dans la tempête économique lancée par Donald Trump, il y a un royaume qu'il semble à peu près passer entre les gouttes. C'est le Royaume-Uni, seulement entre guillemets 10% d'augmentation de droits de douane. Ça aurait pu être le double si le pays était resté membre de l'Union européenne. À Londres, Emeline Vin.
Avec ses 10% de droits de douane sur les exportations vers les États-Unis, le Royaume-Uni s'en sort plutôt bien. Le gouvernement s'attendait à être mis dans le même panier que le reste des Européens. Merci. Au Brexit, s'enthousiasme la presse, y compris certains titres plutôt contre la sortie de l'UE, ainsi qu'une partie des élus conservateurs qui estiment que c'est grâce à la distance prise avec Bruxelles que Londres se trouve mieux loti que ses voisins. Et c'est vrai que si Downing Street joue le rapprochement avec l'Europe sur les dossiers défense et diplomatie, le gouvernement se montre plus individualiste sur le plan commercial. Le Premier ministre assume une stratégie de conciliation dans l'espoir d'obtenir des aménagements sur les voitures, l'acier ou l'aluminium britannique. Cependant, même si Londres craignait des droits de douane plus élevés, ces 10% risquent tout de même d'endommager l'économie britannique et ses 70 milliards d'euros d'exportation annuelle. Le gouvernement assure poursuivre les discussions et garder la tête froide, mais lance une consultation avec les entreprises pour évaluer les impacts des droits de douane afin de préparer des mesures de représailles en cas d'échec des négociations pour un accord commercial. Emeline Vin, Londres, RFI.
Au sein de l'Union européenne, en revanche, qui écope de 20% d'augmentation, il y a ceux qui temporisent, comme l'Italie, pour qui l'objectif c'est la négociation pour faire tomber ces taxes. Et puis il y a ceux qui veulent riposter, comme le chef d'État français qui a présenté ce jeudi un plan de réponse graduée par des taxes, cette fois-ci, sur les produits américains. D'abord sur l'acier et l'aluminium, puis, si ça ne suffit pas, par une deuxième étape à la fin du mois, les enjeux semble grand. Ces taxes américaines pourraient par exemple détruire l'emploi de centaines de milliers de Français, selon la principale organisation patronale du pays. Pour l'économiste Éric Dor, il faut voir ces mesures comme un instrument de négociation simplement destiné à faire plier les partenaires commerciaux des États-Unis.
Des droits de douane extrêmement forts imposés dès le départ ont pour but de faire plier les pays partenaires pour que, effrayés et très demandeurs d'une réduction de ces droits de douane, ils acceptent toute une série de concessions de toute nature. Sommes-nous prêts à revenir sur nos propres normes en matière de qualité des produits, en matière d'environnement, en matière de responsabilité sociale des entreprises? Est-ce que nous sommes prêts à déréguler, à revoir notre régime de TVA dans le cadre de l'Europe, etc., etc.? C'est peu probable. Donc je pense que on va commencer une guerre commerciale qui va être quand même durable sans doute et douloureuse, mais nous n'avons pas d'autre choix que de rétorquer, parce que si nous ne le faisions pas, le gouvernement américain finalement serait conforté dans son idée que l'intimidation fonctionne et lui permet d'imposer sa volonté aux autres pays, ce qui n'est évidemment pas quelque chose de concevable.
L'économiste Éric Dor, interrogé par Anne Verdaguer. Il y a des conséquences que l'on craint donc, et celles qui sont déjà bien réelles. Bourse, dollars, pétrole en chute libre après le coup de massue des hausses de droits de douane américains annoncées ce mercredi par Donald Trump. Wall Street a vu rouge ces dernières heures. Le Nasdaq recule ainsi de 5%, le Dow Jones de 3%. De l'autre côté de l'Atlantique aussi, les investisseurs sont anxieux, moins 3% pour Paris, qui signe sa pire séance depuis 2023. Dans le même temps, les valeurs dites refuge comme l'or connaît des sommets, symptôme d'une situation économique mondiale en peine. Le responsable de tout ça, Donald Trump, lui, prédit un bond des marchés financiers à venir sans taux, sans autre élément énoncé. 31 morts dans un bombardement israélien à Gaza. Selon les secours, une bombe a touché une école où s'étaient réfugiés des déplacés de guerre. Israël a qualifié l'endroit de poste du commandement du Hamas. En parallèle, l'armée israélienne poursuit son opération en Cisjordanie occupée, autre territoire palestinien. Opération lancée le 21 janvier dernier, deux jours après la mise en place de la trêve à Gaza. Depuis, les raids israéliens sont incessants dans de nombreuses villes de Cisjordanie, particulièrement dans le nord, Oriane Verdier.
Hier, un homme a succombé à ses blessures par balle après une opération israélienne à Naplouse. Le Croissant Rouge a également signalé deux blessés graves, l'un de 18 ans, l'autre de 17 ans, dans la ville de Jenin, au nord de la Cisjordanie. Jenin et Toulkarem sont particulièrement visés par l'opération. L'armée y a vidé les camps de réfugiés palestiniens, poussant plus de 40 000 personnes sur les routes. Là comme ailleurs, raids et destructions continuent, tout comme les attaques de colons. Un exemple, il y a deux jours, au sud de Naplouse, 300 colons israéliens ont attaqué un village mettant feu à des fermes et des véhicules, selon l'agence de presse palestinienne Wafa. Trois Palestiniens ont été blessés par balle. L'armée israélienne venait d'installer un checkpoint à l'entrée du village. Les violences des colons et de l'armée sont souvent coordonnées. Mardi, le ministre israélien des Finances s'est félicité du record en 2024 des démolitions par Israël en Cisjordanie occupée. Il a promis l'annexion en 2025 par Israël des colonies israéliennes en Cisjordanie. L'Assemblée général des Nations Unies a pourtant donné jusqu'à septembre prochain à Israël pour mettre fin à sa présence illégale dans les territoires palestiniens occupés.
Un peu plus loin, l'armée israélienne continue de bombarder en Syrie cette fois. Deux sites militaires ont été frappés à Damas ce jeudi soir. Pas de bilan connu pour le moment. Cette nouvelle attaque intervient 24 heures après d'autres frappes israéliennes sur des bases militaires ayant fait 13 morts. La Hongrie claque la porte, elle, de la Cour pénale internationale. Annonce faite ce jeudi alors même que Benjamin Netanyahou arrivait dans le pays pour une visite d'État. Le premier ministre israélien est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre à Gaza. Viktor Orban, premier ministre hongrois, a fustigé dès le départ ce mandat d'arrêt, le qualifiant de choquant et d'honteux. Réaction, la Cour pénale internationale rappelle à la Hongrie son obligation d'arrêter quand même Benjamin Netanyahou. Le processus administratif du pays pour quitter la CPI étant tout juste en cours et non acté. Trop meurtrier pour porter un nom, l'Organisation Météorologique Internationale retire ses noms d'ouragans. Ils s'appelaient Barry, Milton, John, Hélène, qui ont fait des ravages. Tous ces ouragans ont fait des ravages en 2024 dans l'Atlantique et le Pacifique. Leurs dernières incarnations ont été trop destructrices. Ils sont normalement réutilisés tous les 6 ans. C'est un hommage à leurs victimes et il faudra donc trouver un autre moyen de désigner les futurs événements météo extrêmes qui se produiront à l'avenir. Simon Rosé.
Les ouragans, les cyclones, les typhons les plus puissants sont dotés d'un prénom humain. C'est la règle mise en place par l'Organisation Météorologique Mondiale qui estime que les alertes données aux populations menacées sont plus efficaces ainsi. Les prénoms sont donnés par ordre alphabétique, ils alternent entre masculin et féminin, ils doivent être courts et faciles à prononcer dans plusieurs langues. Quand la liste parvient à Z et s'achève, on reprend depuis le début. Mais voilà, certaines tempêtes ont été si destructrices qu'il serait malvenu d'utiliser à nouveau leur nom pour désigner un nouvel événement météo extrême. Les prénoms sont donc retirés, c'est le cas cette année de Beryl, Hélène et Milton dans l'Atlantique, John dans le Pacifique, remplacés respectivement par Brianna, Oli, Miguel et Jake. Au-delà du symbole, cette annonce permet également à l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, de mettre en avant ce qu'elle constate depuis plusieurs années. Ces phénomènes extrêmes sont plus fréquents, plus puissants. Hélène et Milton avaient causé des dégâts catastrophiques aux États-Unis, John avait ravagé l'ouest du Mexique. Cela se répétera à l'avenir, prévient l'OMM, une conséquence du réchauffement climatique provoqué par l'utilisation par l'homme des combustibles fossiles.
Simon Rosé, chef du service environnement de RFI. Le Mali, le Burkina, le Niger et la Russie se félicitent du renforcement de leurs liens, notamment militaires. Les trois ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, sont en visite à Moscou depuis ce jeudi. Les trois pays africains sont dirigés par des militaires putschistes. C'est bientôt la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information dans une cinquantaine de minutes. En attendant, vous retrouverez Radio Foot International et puis ensuite 24 heures en France avec Christophe Paget. Mais pendant ce temps, vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site rfi.fr.